S'il y a bien quelqu'un que j'ai passionnément cru, c'est Steve Jobs, le premier Steve Jobs, celui de la pomme arc-en-ciel et des années 80, celui des pubs avec Gandhi, Lennon et Picasso, celui qui voulait qu'on soit tous des artistes. Quelle plus grande invention marketing que l'idée que le Mac était un vélo pour l'âme. Nous ressortirions améliorés, amplifiés de l'expérience, ce qu'avait fait Newton à la lumière, ce qu'avaient fait les Pink Floyd à la musique. C'est à nos esprits que Steve Jobs allait enfin l'appliquer. Nous allions devenir multitâche au sens noble du terme, être capable de tout, devenir tous les hommes, exercer toutes les activités de l'esprit. Nul ne serait écrivain qui ne serait aussi typographe, nul ne serait savant qui ne serait aussi graphiste. On savait confusément le mal que la division du travail avait infligé aux sociétés humaines, que la spécialisation du savoir avait fait à nos âmes, mais tout cela était enfin réparé. Ce n'était pas des ordinateurs qu'Apple commercialisait, c'était des établis, des gros établis immémoriaux d'orfèvres. La première machine dont j'ai distinctement perçu l'existence, en la reconnaissant comme machine, c'était le banc de finissage d'un cordonnier. Ça sentait le cuir, l'huile et la colle, c'était d'une saleté animale, il y avait un rouleau rouge de papier de verre, des brosses cylindriques, des grands boutons poussoirs, des courroies pour entraîner le tout. Cela m'avait donné la première idée que je me ferais d'une machine universelle, l'Apple 1 des origines. Je donnais rituellement à casser chaque année le talon de mes douloureuses starthrites à trous et le cordonnier, avec l'aide de sa machine, parvenait à ce miracle de les user tout en leur conservant leur aspect neuf, me livrant au passage, dans cette alliance paradoxale du passé et du futur, le secret de tout artisanat véritable. Et cette machine, d'âge indéfini, sinon immémorial, en était la condition de possibilité, l'outil universel, la démultiplication des mains agiles du cordonnier dans les infinis étoilés de mes chaussures noires, dont j'ai longtemps confondu le nom, sinon la forme biscornue, avec le vaisseau de Star Trek. Le prodigieux iPhone n'était pas plus insolent avec sa technologie engloutie sous le masque nacré de son écran tactile, n'était pas plus insolent que cette machine destinée à faire étinceler le bout de mes premières chaussures. On a ressuscité, pour le décrire à sa sortie, tout l'attirail borgésien de la métaphysique en en faisant un livre universel, un aleph ubiquiste absolu, une carte à l'échelle 1, la résolution définitive des paradoxes platoniciens d'Ugbar. On a vu dans l'objet la clé en or et le vieux portail des légendes romantiques paresseusement repeintes aux couleurs du transhumanisme. On a cherché un peu partout les sources d'une aussi conséquente utopie technologique dans l'héritage de la contre-culture californienne, dans l'idée que tous les hommes étaient dorénavant artistes, dans le goût des hippies pour le travail manuel et pour l'acide. Il y a quelque chose de vrai à tout cela. Apple naît sans doute de la décision de Steve Jobs d'aller suivre un jour un cours d'art appliqué et d'être initié, presque au sens maçonnique du terme, aux arts anciens de la main, de la calligraphie, au design. Il reconnaissait aussi le rôle absolument central de la révolution psychédélique, laquelle possède d'évidentes racines kantiennes. Qu'est-ce que le LSD, sinon l'approximation chimique des enseignements de la troisième critique, celle de la faculté de juger et de l'esthétique entendue comme libre jeu des facultés entre elles. Le pâle et prudent citoyen de la paix universelle et de la fin de la métaphysique accédait là-bas, in extremis, à la liberté plus ample de l'artiste. Elle est là la promesse essentielle de la marque à la pomme. C'est Goethe, la grande figure manquante des publicités d'Apple sur le génie universel. Goethe qui voyagea toute sa vie entre les abstractions de la science et les prodigieuses ivresses du sensible. Goethe moins comme contemporain de Kant que comme héros caché de ses critiques qui en serait comme une sorte de biographie intellectuelle occulte. Steve Jobs, artisan génial et défenseur d'une conception réconciliée de l'homme, est incontestablement l'héritier direct de cette longue tradition humaniste. Sur l'une des plus anciennes photos jamais prises, celle du boulevard du Temple, on distingue une figure humaine, la première ainsi immortalisée, celle d'un homme qui, parce qu'il se fait cirer ses bottes, n'a pas été transformé en fantôme par le long temps de pause exigé par le daguerréotype. C'est moi, enfant, devant la machine de mon cordonnier. C'est moi, adulte, devant mon iPhone.
Merci Aurélien Bélanger. Merci Michel Perrault de nous avoir accompagnés. La place des femmes, une difficile conquête de l'espace public, c'est aux éditions textuelles. Et puis on vous retrouve pour une nuit, Michel Perrault, du 14 au 15 mars, dans les nuits de France Culture, bien sûr. Et si vous trouvez qu'il y a trop d'hommes dans le débat, trop d'expertise au masculin, eh bien écoutez l'Esprit Public de dimanche prochain, avec l'ancienne ministre Aurélie Filippetti, la sociologue Dominique Schnapper, la philosophe Monique Cantos-Perber et les journalistes Sylvie Kaufmann et Christine Ockren. C'est en public au théâtre de l'Odéon, mais il faut réservé. Merci à toute l'équipe des matins. Pauline Chanuel, Elodie Piel, Mayou Nguizou, Léa Capuano, Aurélien Dubost, David Jacob, Vias, Nicolas Paumé, François-Charles Domergue, Cindy Le Grumelec, Yannis Judad, Élise Le et Florent Bujon. Bonjour Xavier Mauduit.
Bonjour,
dans le cours
Guillaume
de l'histoire.
Bien, nous allons évoquer également la place des femmes parce que nous nous penchons sur les formes de lutte non virile dans le combat révolutionnaire et ça se passe dans le cadre des journées de l'histoire de l'Institut du Monde Arabe.
Et ça sera dans quelques instants, 9h sur France Culture.